Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, lorsque Saint Jean commence son évangile, il dit que le Christ est la lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Et il se plaint que la lumière n'ait pas été reçue. De quelle lumière s'agit-il? S'agit-il pour nous d'une lumière sensible comme celle qui attire les animaux? Non, bien entendu. Saint Jean le dit, il s'agit du verbe, mot latin, qu'on pourrait traduire par parole, par expression, l'expression de Dieu, la parole de Dieu. Mais parole est trop faible. Et voilà pourquoi on a gardé le mot verbe. En tout cas, il s'agit de l'expression la plus élevée de Dieu, qui est une lumière pour nous, et donc une lumière pour nos intelligences. On voit dans l'Évangile que notre Seigneur parle certainement de charité, mais aussi très souvent de vérité. Et lorsqu'il donne un enseignement important, il précise « en vérité, je vous le dis ». La vérité est donc quelque chose de très important. La vérité porte sur la connaissance. On est dans le vrai quand on connaît. On est dans l'ignorance quand on ne connaît pas. Et on est dans le faux lorsqu'on dit le contraire de la réalité. Il est évidemment très important de méditer sur ce que l'âme humaine, enfin sur ce que Jésus-Christ, mais particulièrement dans son âme humaine, connaissait de Dieu, du monde, des hommes. Évidemment, on pourrait dire, il est Dieu, donc il savait tout. Mais à ce moment-là, on pourrait le dire de tout ce qui concerne l'incarnation, et on vide un petit peu, enfin on met de côté un petit peu le motif de l'incarnation, Jésus qui est notre modèle. Il est donc important de méditer, de contempler la science du Christ. La première raison, c'est que cela nous permettra de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ et de l'admirer. Or, rappelez-vous, lorsque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous donne les étapes pour nous préparer à la consécration à la Très Sainte Vierge, la première, c'est se vider du monde. La deuxième, se connaître soi-même. La troisième, connaître Marie. Et la quatrième, connaître Jésus-Christ. Il est donc important de connaître, et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ne dit pas connaître Dieu, il dit connaître Jésus-Christ. Et lorsqu'on le connaît mieux, évidemment, on l'admire mieux, et on l'aime plus et on est plus attiré par lui. Voilà comment cette lumière attire les hommes. La deuxième raison pour contempler la connaissance de Dieu dans l'âme de Jésus-Christ, c'est que cela nous fait connaître le ciel. Nous nous disons, souvent je pense, vous vous dites, mais en quoi consistera le ciel? Que verrai-je? Et les plus jeunes parmi vous se disent peut-être, ne risquerais-je pas de m'ennuyer ? Or, il est une évidence, c'est que l'âme de Jésus-Christ, en contact avec la divinité, cette âme a été comme transportée au ciel, alors qu'elle était toujours sur la terre et qu'elle était une âme humaine, elle a été comme transportée au ciel, et il y avait une conversation intime entre Jésus-Christ et son Père, non pas dans le sein de la Sainte Trinité, ça c'est une évidence, mais même durant toute sa vie terrestre, et qui continue encore aujourd'hui dans le ciel. L'âme de Jésus-Christ était un petit peu, était pas un peu, elle était déjà au ciel même lorsqu'elle était sur terre. La raison suivante, c'est que nous allons voir à quel point Jésus-Christ nous connaissait, nous, intimement. Et il nous connaissait pas seulement pour nous connaître, comme, je sais pas, un entomologiste étudie la vie des abeilles. Il nous connaissait pour nous donner des grâces, nous donner son aide, nous attirer à lui, comme un professeur connaît ses élèves, si vous voulez, ou une mère connaît son fils. Et la dernière raison de contempler la science de Jésus-Christ, c'est que nous allons voir que Jésus-Christ a fait usage de son intelligence de façon active. Et cela est un modèle pour nous qui devons également faire usage de notre intelligence de façon active, et peut-être même plus encore que Jésus-Christ, étant donné que nous n'avons pas la perfection de la science de Jésus-Christ, nous avons un devoir de chercher la vérité, car si Dieu nous a donné une intelligence, c'est parce qu'elle est pour nous le seul moyen de pénétrer profondément dans le mystère divin. Revenons un peu plus en détail sur la science de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant que Dieu, possédait évidemment la science divine, mais ça, c'est une évidence. Il n'a pas quitté la Sainte Trinité lorsqu'il descendit dans ce monde, et par conséquent, cette intimité qui existe au sein de la Sainte Trinité continuait durant l'incarnation. Mais cette intimité est tellement élevée qu'elle ne peut pas être possédée par une âme humaine, même l'âme de Jésus-Christ, aussi parfaite soit-elle, parce que elle est humaine. Étant humaine, elle peut posséder une lumière qui est donnée par Dieu, mais qui restera une lumière humaine. Et donc, il y a trois sciences dans l'âme de Jésus-Christ. La première est la science des bienheureux. La deuxième est la science infuse par Dieu. Et nous verrons qu'elle est semblable à celle des anges. Et la troisième est la science acquise par l'exercice de son intelligence, et elle est semblable à la science que nous acquérons nous-mêmes. Tout d'abord, la science des bienheureux. Par cette science, l'âme de Jésus-Christ, qui était en contact par l'union hypostatique, vous vous rappelez ce que c'est, mes bien chers frères, l'union hypostatique, l'union de la divinité et de l'humanité dans une seule personne. Ce qui donne une très grande intimité de l'humanité de Jésus-Christ avec la divinité. Il est évident que cette intimité va éclairer l'âme de Jésus-Christ, et il est important de nous le rappeler, de contempler ça, de le considérer. Même sur la croix, Jésus-Christ était dans la contemplation de la perfection divine. Vous me direz, mais pourquoi a-t-il dit à son Père, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Parce qu'il n'a pas voulu se réjouir de cette contemplation. Il a voulu en suspendre les effets. N'empêche qu'il était dans la contemplation. Sinon, il n'aurait pas été le Fils de Dieu, chéri par Dieu le Père, son Fils bien-aimé. Monseigneur Lefebvre nous demandait de vous rappeler, mes bien chers frères, de vous faire méditer sur cette vérité, la contemplation de l'âme de Jésus-Christ, qui vous fera comprendre ce que sera votre contemplation de Dieu au ciel. Vous serez en compagnie de notre Seigneur, de la Sainte Vierge bien sûr et des saints, en tout premier de notre Seigneur qui contemple son Père. Il fallait également que l'âme de Jésus-Christ ait une connaissance des choses humaines, des choses divines et des choses humaines, une connaissance un peu comme les anges, et puis une connaissance comme nous, lorsque nous recevons la foi, par exemple. La foi, qui vous donne une connaissance de Dieu, n'est pas une science acquise par l'exercice de votre intelligence, c'est une science, c'est une connaissance reçue par le don de la foi, reçue dans votre intelligence humaine, mais reçue qui vient d'en haut. À plus forte raison, par le don de sagesse, le don de science, mais surtout le don de sagesse, vous avez une connaissance des réalités créées sous le regard de Dieu. Il est évident que notre Seigneur a eu cette connaissance à un degré suréminent. Parce qu'il était plein du Saint-Esprit, il a eu cette connaissance suréminente, mais qui concernait non pas seulement Dieu, mais également tout ce qui concernait sa mission, son incarnation, donc tous les hommes, toutes les situations de tous les hommes. Notre Seigneur, à chaque moment de sa vie, savait que vous viendriez méditer sur le mystère qu'il vivait, qu'il connaissait tous les hommes. Je vais vous raconter une petite histoire. Le père Bariel, notre bon père Bariel, directeur spirituel au séminaire, nous disait, lorsqu'il nous prêchait notamment les exercices de Saint Ignace et la vie de Jésus-Christ, « Faites-vous tout petit, mettez-vous dans un coin de la pièce et dites à notre Seigneur, à Notre-Dame, ne vous dérangez pas pour moi, je me fais tout petit, je viens observer, je viens contempler. » Et certains séminaristes trouvaient cette remarque infantile. Eh bien non, elle est profondément théologique. Parce que notre Seigneur nous répond à ce moment-là, « Mais tu ne me déranges pas, je t'attendais. »« Comment Seigneur, vous m'attendiez ?»« Mais oui, je te connaissais quand j'ai vécu ces mystères. C'est pour toi que je les ai vécus. Et si je les ai vécus pour toi, j'ai parlé de toi à mon Père. Et non seulement je le savais, non seulement je t'attendais, mais c'est moi qui t'ai fait venir. En vivant ce mystère, en parlant de toi à mon Père, j'ai demandé à mon Père les grâces de t'attirer. Non seulement la grâce de t'attirer, mais de t'ouvrir l'esprit lorsque tu méditerais ce mystère. Et vous voyez, mes bien chers frères, à quel point il est important de connaître cette richesse de l'intelligence et de la science de notre Seigneur. Parce que cela nous montre que l'incarnation est créée entre Jésus-Christ et nous, une intimité, on pourrait presque dire que Jésus-Christ nous touche, il nous prend par la main. Et pour prendre par la main, il faut connaître. Vous allez me dire, Dieu aussi prend par la main. Mais oui, mais comme Dieu savait que aller vers lui qui est un pur esprit est difficile, et la preuve, Adam et Ève n'ont pas voulu considérer ces réalités très hautes. Il a envoyé le Christ, qui s'est fait homme, Et ce faisant, Tom, il est beaucoup plus proche de nous et il nous prend par la main, là où le bon Dieu ne nous prend quand même que par l'esprit. Et donc cette connaissance que le Christ avait de chacun d'entre nous, de toutes nos misères, est très importante. Quand vous parlez au Christ, dites-vous bien que d'une part il vous entend, mais d'autre part, il y a longtemps qu'il savait ce que vous aviez à lui dire, ce que vous auriez à lui dire, et qu'il vous a écouté avec bienveillance. Il n'attend qu'une chose, c'est que vous le lui disiez. Mais vous pourrez me dire à ce moment-là, pourquoi nous demande-t-il de le lui dire s'il le sait déjà? Mais parce que cela nous fait du bien de le dire. Nous en avons parlé en parlant de la prière. Et je vous en ai parlé en parlant de l'alliance. Dieu nous traite, nous donne une mission. Il nous traite avec une certaine égalité avec son Fils. Et par conséquent, il est normal que nous nous adressions à Jésus-Christ. Et puis il y a enfin une troisième science dans l'âme de Jésus-Christ, qui est la science acquise. Bien sûr, on pourrait se dire à quoi sert-elle, puisqu'il savait déjà toutes choses. Saint Thomas nous explique, il nous dit, l'intelligence est faite pour connaître, comme il fallait que l'intelligence de Jésus-Christ, connue de façon parfaite, elle reçut de Dieu son Père une connaissance infuse, qui est la même connaissance que celle des anges, qui reçoivent une double connaissance, celle des bienheureux, parce qu'ils sont au ciel, et puis une science infuse par laquelle ils connaissent toute la réalité créée. Et celle de Jésus-Christ était évidemment bien plus étendue, parce que la mission de Jésus-Christ va beaucoup plus loin que la mission des anges. Mais il n'y a pas que cela. Notre Seigneur est venu restaurer notre nature humaine blessée. Or, notre nature ne fait pas que recevoir une illumination, mais elle cherche la lumière. Et elle trouve la lumière dans les objets créés, mais même dans les objets sensibles. Lorsqu'un enfant regarde sa mère et qu'il voit le sourire de sa mère, il découvre à travers ce sourire la bonté de Dieu qui a fait les mamans. Au début, c'est instinctif. Après cela, il réfléchit. Il réfléchit sur cette nature de l'amitié, sur ce que Dieu a fait, et comment on va vers lui. Et donc notre Seigneur a fait usage de son intelligence d'une façon beaucoup plus parfaite que la nôtre, bien entendu, parce que nous, il faut voir de multiples exemples pour arriver à abstraire une vérité. Les gens très intelligents, il leur suffit de voir peu de choses pour en comprendre beaucoup. Et il est évident que notre Seigneur, quand il a contemplé des choses créées, a compris beaucoup plus de choses que nous en contemplant ces choses créées. N'empêche qu'il les a contemplées et il a tiré de ces choses créées la lumière qu'elles contiennent, qui est cachée en elles. Et cela, il l'a fait en fonction de son âge. Voilà pourquoi Saint Luc dit qu'il grandissait en âge, en science et en sagesse. Il est évident que dans la science infuse, Jésus-Christ n'a pas grandi en science, et ça c'est une erreur très grave, hein, mes bien chers frères. Les modernistes affirment que notre Seigneur Jésus-Christ a pris conscience de sa divinité, c'est-à-dire qu'il nie dans l'âme de Jésus-Christ, il nie dans l'humanité de Jésus-Christ, la science des bienheureux, comme si notre Seigneur n'était pas au ciel, comme si son âme n'était pas dans la contemplation de la divinité. Ça revient presque à nier la divinité du Christ. Il nie la science infuse. Il n'accepte que la science acquise, la découverte. Jésus-Christ aurait, comme n'importe quel prophète, découvert qui il était. Et bien entendu, cela repose, mais ce n'est pas le sujet de ce sermon, mais il était nécessaire quand même que je vous fasse une ouverture là-dessus, parce que justement, c'est à l'occasion de l'étude de la connaissance du Christ qu'on connaît mieux la vérité et les erreurs si dangereuses, les erreurs d'aujourd'hui. Pour les modernistes, tout est une affaire de prise de conscience, de découverte, et il y a même presque plus de vérité pour eux. Et il y a une prise de conscience, je vous en parlerai une autre fois. Alors le Christ a été un vulgaire homme. Quand je dis vulgaire, c'est-à-dire, pour les modernistes, l'homme est déjà vulgaire. Il n'est pas élevé, malgré ce qu'ils en disent. Il n'est pas élevé parce que, comme pour eux, le Christ n'est pas le Fils de Dieu par nature conscient dès le début de ce qu'il est. Il est évident que l'homme ne peut pas être grand-chose non plus, puisqu'il est à l'image de Dieu. Et donc je vous disais que notre Seigneur a grandi en âge, en science et en sagesse, c'est-à-dire qu'il a fait sagement usage de son intelligence pour découvrir, pour connaître la réalité, les réalités qui étaient sous ses yeux. Il n'a pas joué à réfléchir, à parler comme un jeune de 18 ans lorsqu'il en avait 7. Ça, c'est bon pour les évangiles apocryphes, ça, qui racontent des légendes. Quand il avait 7 ans, il parlait comme un enfant de 7 ans. Il avait une connaissance bien supérieure, mais il parlait comme un enfant de 7 ans. Et l'usage de notre intelligence, mes bien chers frères, est très important, parce que le monde moderne veut tuer, veut anesthésier, veut obscurcir notre intelligence, nous empêcher de penser. Et si nous ne pensons plus, nous ne pouvons plus découvrir les réalités divines, et par conséquent, nous ne pouvons plus aller vers les réalités divines. Parce qu'il y a deux manières de tuer la lumière. La première qui est d'éteindre la lumière, et la deuxième qui est d'éteindre les intelligences qui reçoivent la lumière. Et le monde moderne éteint l'intelligence, elle ne peut plus recevoir la lumière. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Il faut penser à Dieu. Et cette réflexion, petit à petit, durant votre vie, va s'approfondir, va s'affiner, va se purifier. Vous allez faire la part des choses, vous allez découvrir les choses qui passent, les choses qui demeurent, les choses basses, les choses élevées, les choses des hommes, les choses divines. Vous allez beaucoup mieux pénétrer le mystère divin, et cela vous préparera à la contemplation éternelle de Dieu le Père en compagnie de Jésus-Christ lorsque le moment sera venu. J'espère bien que nous y serons tous ensemble. Alors remercions Dieu de nous avoir donné notre Seigneur Jésus-Christ et de nous faire découvrir la richesse de son âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.